Bonjour Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 28 avril 1969, le jour où Charles de Gaulle quitte l'Élysée. Le dimanche 20 avril 1969, 7 jours avant le référendum sur la participation, la régionalisation et la réforme du Sénat, le général de Gaulle, après avoir assisté à la messe célébré dans la petite chapelle de l'Élysée par son neveu, le père François de Gaulle, reçoit ses enfants dans ses appartements privés, comme à son habitude quand il ne réside pas à Colombey les deux églises. Il leur confesse sa certitude de la défaite au référendum. Le mercredi 23 avril, de Gaulle sait qu'il préside son ultime conseil des ministres. Les délibérations sont brèves. L'ordre du jour est de pure routine. Avant de prendre place à la table du Conseil, il en fait lentement, comme toujours, le tour pour serrer les mains des membres du gouvernement. Il est impassible. Au moment de prendre congé, il dit simplement « Nous nous réunirons en principe mercredi prochain. Nous avons en effet l'espoir de nous retrouver la semaine prochaine. S'il n'en était pas ainsi, ce serait un chapitre de l'histoire de France qui serait terminé. » Le soir même, à 18h, le président de la République donne audience, comme chaque jour, à ses 4 principaux collaborateurs. Bernard Tricot, secrétaire général de l'Élysée, Jacques Foccart, secrétaire général à l'Élysée pour les affaires africaines et malgaches, Xavier de la Chevalerie, directeur de cabinet, et le général Lalande, chef de l'état-major particulier. Il précise ses instructions à exécuter dès le dimanche suivant, vers 21h, quand les résultats de la consultation électorale seront évidents. Déménager les archives dans la nuit, celles qui le concernent personnellement et celles de ses collaborateurs. Les déposer provisoirement rue de Solferino dans le bureau qu'il occupait avant son retour au pouvoir en 1958. Lundi à midi, tous les conseillers techniques et chargés de mission de l'Élysée auront quitté le palais. Enfin, il précise que Jacques Foccart demeurera à sa place rue de Grenelle, siège du secrétariat général pour les affaires africaines et malgaches. Le jeudi 24 avril, le Premier ministre, Maurice Couve de Murville, rencontre le général qui lui expose les conditions de son départ. Il lui fait part de ses dernières directives et lui annonce que Bernard Tricot, lui, fera parvenir lundi matin le communiqué annonçant son départ et une lettre personnelle. Le vendredi 25 avril à 11h, de Gaulle enregistre son ultime appel qui sera diffusé à la radio et à la télévision le soir même à 20h. À 13h45, il monte avec son épouse dans la voiture qui le conduit à Colombey les deux églises. À 16h30, la déesse présidentielle franchit la grille de la boisserie. Le général passe la journée du samedi dans la plus parfaite solitude, sans quitter sa résidence, sans donner ni recevoir un seul coup de téléphone. Le dimanche matin, pour éviter les journalistes qui cernent sa résidence et les nombreux curieux qui attendent à l'église, il entend la messe dans le salon où un autel est dressé. À 11h35, il arrive à la mairie pour y accomplir son devoir électoral. Dans l'attente du résultat du scrutin, il est seul dans son bureau, encombré de souvenirs de la France libre. « Vous m'appellerez dimanche soir, dès votre première impression », a-t-il dit à Bernard Tricot juste avant son départ de l'Élysée. C'est ce que fait le secrétaire général pour annoncer au chef de l'État les fourchettes électorales présageant la victoire du non. « Vous me rappellerez vers 22h », lui dit le général avant de raccrocher. À l'heure dite, il donne à Bernard Tricot de nouvelles instructions. « J'ai changé d'avis. Le communiqué annonçant que je cesserai d'exercer mes fonctions lundi à midi ne doit pas être publié demain à 11h comme il était entendu, mais aussitôt après minuit. » À l'Élysée se déroulent les préparatifs du départ. Chacun, dans son bureau, achève le tri de ses papiers, et déménage ses dossiers personnels. Vers 22 heures, la plupart des collaborateurs du général se retrouvent bouleversés autour d'un buffet. Seul le cabinet de travail du chef de l'État, plongé dans l'obscurité, reste fermé. Plusieurs secrétaires pleurent. Vers 23 heures, Bernard Tricot fait parvenir à Maurice Couve de Murville les deux documents laissés à son intention. Dans la lettre qui lui est adressée, de Gaulle remercie le Premier ministre. « Je vous donne témoignage du concours tout à fait éminent et à tous égards excellent que vous m'avez apporté comme Premier ministre pour le service de notre pays après l'avoir fait comme ministre des Affaires étrangères. » Il fait part ensuite de la profonde estime et du cordial attachement à tous les membres du gouvernement qui ont autour de vous porté la charge des affaires publiques avec tant de distinction et de dévouement. Le lundi 28 avril, à 0h10, l'agence France-Presse publie « Le général de Gaulle communique. Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. Une grande animation règne toute la matinée à l'Élysée où les collaborateurs du général ne cachent pas leur profonde tristesse. Les gardes républicains procèdent au dernier déménagement pour permettre à Alain Poher, président du Sénat, de s'installer dès midi dans le palais présidentiel. Une camionnette est partie pour colomber les deux églises, chargée des affaires personnelles du couple présidentiel. À 11h30, Bernard Tricot réunit dans la salle des fêtes le personnel de la présidence de la République. Il tient le discours suivant. Le général de Gaulle est parti sans que les circonstances lui aient permis de vous recevoir. Tout à l'heure, au téléphone, il m'a chargé de vous faire connaître son regret de n'avoir pu vous dire au revoir ou adieu. Il m'a chargé aussi de vous exprimer son affection fidèle. Nous voici tous et chacun seuls et désolés. Je pense que dans ces moments, nous devons agir comme il l'eût souhaité. Je pense que nous devons rester dignes, discrets, attachés à la loyauté, à la continuité de l'État et que nous devons continuer à servir au maximum notre pays. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver Emmanuel pour la chronique littéraire Un jour, trois livres. Nous allons écouter du tango avec Carlos Gardel, l'enfant de Toulouse qui s'est exprimé en Amérique du Sud et en particulier en Argentine. Nous écoutons Buenos Aires, querido.
Buenos Aires, ni Buenos Aires querido, ni Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. Farolito de la calle de Crací, o el centinela de mis promesas de amor. Bajo tu quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, y oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda el corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida termina. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce devoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del calor. La ventanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su queja de coraje y de pasión. y una promesa y un suspirar, borro una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. C'est maintenant l'heure de la chronique littéraire, Un jour trois livres, qui est présentée aujourd'hui par Emmanuel.
Les enfants de Dieu, de Lars-Peter Sveen, aux éditions Actes Sud. Voici un roman dont l'écho se poursuit aujourd'hui. Il débute à Bethléem lorsque Hérode vient d'ordonner la mise à mort de tous les garçons de moins de 2 ans. Une troupe d'élite passe de maison en maison et exécute l'ordre avec véhémence. Aucun des soldats n'est réellement en mesure de déterminer l'âge de tous ces enfants, et ils ne s'en formalisent d'ailleurs pas. Soudain, Cato, le leader du groupe, vomit ses tripes au lieu d'abattre son épée. La nuit a été longue, trop longue. Le roman se poursuit sur une période de 40 ans, suivant la naissance de Jésus, en mettant en scène les personnages du Nouveau Testament, et notamment Jacques et ses parents, et, d'une certaine façon, ce roman va annoncer la chute de Jérusalem quelque 30 ans plus tard. En quelque sorte prophétisé par un vieil homme aveugle, celui qui voit au-delà de la vision, mais aussi celui qui personnifie l'obscurité, cherchant à semer le doute, l'indifférence et le fatalisme. Et surtout, ce roman nous interroge sur l'éternelle escalade de la violence, celle qui abat les innocents et les justes. Les enfants de Dieu, de Lars-Peter Sveen, aux éditions Actes Sud. Lazare. Lazare, ou le premier ressuscité de notre histoire, c'est celui qui s'est réveillé d'entre les morts, mais n'a d'ailleurs gardé aucun souvenir de son séjour parmi eux. Si tout le monde connaît son histoire, le Nouveau Testament reste néanmoins assez discret sur la vie de ce personnage, homme aimé de Jésus, et homme ayant 2 sœurs qui vont tout faire pour qu'il soit ressuscité. L'auteur, grâce à des recherches historiques et bibliques, va nous la retracer, cette histoire. Lazare, devenu un objet de curiosité pour ses contemporains, se demande pourquoi il a été choisi. Il nous parle de Jésus, ou plutôt de Yeshua ben Yosef, de sa première rencontre lors de leur enfance à Nazareth, jusqu'au dernier jour de Jésus, sa passion, son enseignement, la propagation de celui-ci après la crucifixion. C'est aussi une rétrospective du contexte culturel et religieux, celui du judaïsme et de ses traditions, de cette lointaine période de l'Antiquité. Lazare, c'est aussi l'occasion de constater le décalage entre la perception des proches de Jésus et l'enseignement qui en sera tiré, et cela notamment au regard de la personne de Marie et, à travers elle, des femmes. Lazare, de Richard Zimler, édition Le Cherche Midi. Et nous terminons par le linceul. Après la couronne d'épines et le tombeau du Christ, voici son linceul, le Saint-Suaire, base du 3e roman de François Dubreuil. Le pape demande à un historien, Paul Brouard, de prouver son authenticité. Or, le professeur Morica, président de la commission de la datation du linceul, vient de décéder. Et c'est sa fille Nina qui va assister Paul Brouard dans un périple qui va nous conduire de Rome à Turin, en passant par Notre-Dame de Paris et Istanbul. Car Jonas Trust, mania australien des médias et athée revendiqué, prêt à tout pour détruire l'Église, a mis le Vatican au défi de prouver l'authenticité de cette relique. Une fois de plus, c'est l'occasion de s'interroger sur sa propre foi et les vecteurs de celle-ci, car l'existence de Dieu ne peut être ni démontrée ni exclue sur une simple base scientifique. Bref, c'est à nous de croire ou de ne pas croire. Le linceul, de François Dubreuil, aux éditions Pierre Tecky.
Ainsi s'achève cette émission Historama. Merci à Lucas qui l'a réalisée. Et nous allons nous séparer en musique avec toujours Carlos Gardel, l'enfant de Toulouse, parti s'exprimer en Amérique du Sud avec Adios Muchachos.
Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno contra el destino que nadie en la talla. Se terminaron para mí todas las farras, mi ser enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los bellos momentos que antaño disfruté cerquita de mi madre, mi santa viejita, y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más bella que una diosa, y que briollo de amor le di mi corazón, pero el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, se la llevó. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno contra el destino, nadie en la talla. Se terminaron para mí todas las farras, mi ser enfermo no resiste más. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista. Ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos al llevarse a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó, y al darle a mis amigos mi adiós postrero le doy con toda mi alma mi bendición.
Voilà, j'aurai plaisir à vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle évocation d'un jour de l'histoire. Oh,